Alléluia. Moi, je vous dis d'avance que je vais... je vous dois toujours un message. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que c'est le Seigneur qui fait les choses. Il faut qu'on soit flexible. Donc, sinon, ce n'est que la performance. On essaie de fournir quelque chose et puis, bon. Mais quand le Seigneur est au contrôle, laissez-le faire. Laissez-le faire. Amen. Ce matin, nous allons rentrer d'emblée dans la continuité de notre message que nous avons commencé dimanche dernier. Et je vais essayer de faire la lecture à nouveau pour plus ou moins mettre en contexte ce dont nous allons parler. Et dimanche dernier, on était dans Marc chapitre 16, versets 1 à 20. Et nous avons aussi lu Matthieu chapitre 28, versets 11 à 20. Et donc, je vais encore vous inviter à lire ces portions de l'Écriture avec moi. Je fais la lecture rapidement. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. » Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne leur crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Rapidement, je vais lire Matthieu 28. Matthieu 28, 11 à 20. « Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs ce qui était arrivé. » Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et à avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'étaient les deux textes qu'on avait lus. Mettez-vous, s'il vous plaît. Et dimanche dernier, le titre du message que nous continuons aujourd'hui, c'était « La résurrection de Jésus, le message de l'Évangile. » La résurrection de Jésus, le message de l'Évangile. L'une des particularités de la résurrection de Jésus, c'est que c'est la seule qui fut annoncée d'avance et accomplie. C'est la seule qui fut annoncée d'avance et accomplie. Il n'y a aucun homme sur terre qui a dit « Je vais mourir » et qu'il est mort et par la suite, il est ressuscité. Jésus, par sa résurrection, disons la résurrection de Jésus, est la seule qui fut annoncée d'avance et accomplie telle qu'il l'a dit. Et si nous regardons dans Ésaïe chapitre 12, nous allons voir que le prophète Ésaïe lui-même, il avait prophétisé sur la mort et la résurrection de Jésus. Au chapitre 12, il dit ceci, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Est-ce que Jésus a été au nombre des malfaiteurs? Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il l'a intercédé pour les coupables. Donc, Ésaïe l'avait déjà prophétisé. Et ce que Ésaïe a dit, c'est réalisé. Et le tombeau vide, mes bien-aimés, que les femmes ont constaté là, ne garantit pas, ne confirme pas non plus forcément la résurrection de Jésus. Ah oui, le tombeau vide ne confirme pas la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que les religieux ainsi que le système étatique avaient déjà un plan monté pour contrecarrer ça. Donc dire ou bien voir le tombeau vide ne confirme pas, ne garantit pas que Jésus est effectivement ressuscité. Parce qu'il y a déjà un plan que l'enfer a mis en marche. Et le plan était en mode d'exécution. Le plan allait marcher si Jésus n'est pas ressuscité effectivement. Et la garantie que Jésus-Christ est ressuscité, c'est parce qu'il s'est montré lui-même. S'il ne s'est pas montré, ça allait quelque chose de flou. Mais il s'est montré. Qui fait en sorte qu'il a cassé le plan de l'ennemi. Donc, c'était une orchestration que Dieu avait déjà prédéfinie de telle sorte que, eh bien, l'enfer ne puisse avoir le dessus sur l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, pour vivre les bénéfices de la résurrection, il faut avoir la conscience de la résurrection. Oui. Il faut avoir la conscience de la résurrection. Pour que la résurrection ne soit pas un simple mot, pour que la résurrection ne soit pas, eh bien, quelque chose qu'on célèbre chaque année, mais que ça soit une conscience qu'on a. Donc, une conscience qui nous amène à avoir la révélation de la résurrection. La révélation de la résurrection nous permet d'exercer la puissance de la résurrection. Si tu n'as pas la révélation de la résurrection, tu ne pourras pas, d'accord, déceler la puissance qui en réside. C'est la révélation de la résurrection qui va te permettre, eh bien, de jouir de cette puissance et de l'exercer à bon escient. L'apôtre Paul dit qu'il veut connaître Christ et la puissance de la résurrection dans Philippiens 3, 10. Et si j'utilise Éphésiens chapitre 2, regardez ça, dans Éphésiens chapitre 2, qu'est-ce qu'il a dit? Éphésiens chapitre 2, au verset 22, regardez ça. La Bible dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude, celui qui remplit tout en tout. Maintenant, au verset 6 et 7, il dit ceci, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. » Donc, il faut avoir une conscience de la résurrection pour que ça soit une vérité établie en toi. Il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités. Quand tu étais mort? Quand est-ce que tu étais mort? Donc, si tu n'as pas cette conscience, tu ne sais pas si tu es mort et même ressuscité. C'est une conscience qu'il faut avoir. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Est-ce que tu es conscient que tu es asseoir dans les lieux célestes en Christ? C'est une conscience que tu dois avoir. C'est une révélation que tu dois avoir. Que tu es assis tout en étant sur la terre, tu es assis dans les lieux célestes en Christ. C'est pourquoi au verset 22, la Bible dit, il a mis tout sous ses pieds. Toutes les forces des ténèbres sont sous ses pieds. Mais maintenant, où est-ce que tu es? Tu es dans les lieux célestes en Christ. Donc, si tout est sous les pieds de Jésus, par ricochet, tout est sous tes pieds aussi. C'est pourquoi il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Il nous a fait asseoir. Maintenant, sachant que on a titré le message « La résurrection de Jésus », le message de l'Évangile, c'est à ce niveau qu'on démontre en quoi la résurrection de Jésus est le message. En quoi la résurrection de Jésus est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle qui découle de la résurrection. Parce que jadis, eh bien, on était sous l'emprise de l'ennemi. Mais maintenant, étant ressuscité avec Christ, l'ennemi est sous nos pieds. Si ce n'est pas ancré dans notre système de pensée, dans notre état d'esprit, ce n'est que vide. C'est pourquoi ça prend la conscience de la résurrection. Sinon, c'est vide. Mais ça prend la conscience pour comprendre que tu n'es plus sous l'emprise du diable. Dimanche dernier, on n'a pas eu le temps de visiter avec vous quelques implications qu'on a pu relever de la résurrection de Jésus. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais tenter de voir avec vous, les quelques implications de la résurrection de Jésus. Jésus lui-même dit dans Jean 11, 25 qu'il est la résurrection. S'adressant à Marthe et Marie, il dit qu'il est la résurrection. Non seulement il est capable, il est ressuscité, mais lui-même, il est la résurrection. La résurrection de Jésus en tant que message de l'Évangile, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique, la résurrection de Jésus? Je vous l'avais dit dimanche dernier, si Jésus n'est pas ressuscité, notre salut là, c'était impossible. C'est impossible. S'il n'est pas ressuscité. Si Jésus s'arrêtait seulement à la croix, sa mission n'est pas complète. La résurrection, la première chose que la résurrection de Jésus, ou bien la première implication que je vais tenter de voir avec vous, c'est que la résurrection de Jésus valide qu'il est le Fils de Dieu. La résurrection de Jésus valide qu'il est le Fils de Dieu. Regardez avec moi Romains 1, versets 1 à 4. Romains 1, versets 1 à 4. La résurrection de Jésus valide qu'il est le Fils de Dieu. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, entre autres Ésaïe, on a lu antérieurement, dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, est déclaré fils de Dieu, il est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, mais comment? Par sa résurrection d'entre les morts. Donc la résurrection de Jésus valide qu'il est le Fils de Dieu, parce que c'est lui qui disait qu'il était le Fils de Dieu, qu'il va ressusciter d'entre les morts, et effectivement, cela s'est passé comme il l'avait prédit. Et Paul vient de nous le confirmer ici. La résurrection de Jésus valide qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est le Fils de Dieu. La deuxième implication, la résurrection de Jésus rend crédible la parole de Jésus. Deuxième implication. La résurrection de Jésus rend crédible la parole de Jésus. Matthieu 16, 21. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Voici ce que Jésus dit à ses disciples. D'accord? Il a dit ça. Il n'est pas encore parti. Il n'est pas encore mort. Il a dit ça. Il dit, les gars, voici ce qui va se passer. Maintenant, dans Matthieu chapitre 17, versets 5 à 9, maintenant, Jésus nous parle encore là-bas. Comme il parlait encore, on est dans Matthieu 17 maintenant, versets 5 à 9. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Ne parlez à personne. Or, quand est-ce que les disciples ont parlé de ça? Ce n'est que quand il était ressuscité. Donc, la résurrection de Jésus rend crédible sa parole. Il l'a dit, et ce n'est que lorsqu'il est ressuscité que les disciples commencent, d'accord, à prêcher, à annoncer qu'il est ressuscité. Il l'a dit au départ. La résurrection de Jésus rend crédible la parole de Jésus-Christ. Une troisième implication, c'est que la résurrection de Jésus nous conduit à la vie éternelle en Jésus-Christ. Elle nous conduit à la vie éternelle en Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous sommes régénérés. Nous sommes régénérés par quoi? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ce qui nous conduit à la vie éternelle. S'il n'y a pas eu cette régénération-là, par le biais de la résurrection de Jésus, on ne serait pas conduit à la vie éternelle. La quatrième implication, c'est que la résurrection de Jésus nous donne droit à un avocat qui nous évite la condamnation. On a un avocat qui nous évite la condamnation. Un avocat qui nous évite la condamnation. Romains 8, 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à droite de Dieu et il fait quoi? Et il intercède pour nous. Parce que s'il n'est pas ressuscité, comment il va se trouver auprès du Père? Donc c'est sa résurrection qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a un avocat auprès du Père. C'est sa résurrection. Et peut-être plus loin, si j'ai le temps, vous allez le voir. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus là, quand ils pêchent, qu'est-ce qui va leur arriver? Sachant que le salaire du péché est la mort. Donc il a fallu ce Jésus vivant, ressuscité vivant auprès du Père maintenant, qui intercède chaque fois que je chancelle, chaque fois que tu chancelles, pour dire, écoutez Père, voici mon sang. Mon sang a coulé pour lui. C'est vrai, je comprends. C'est vrai, en temps normal, elle est fautive. Mais mon sang a coulé pour lui. Mon sang a coulé pour elle. C'est cet avocat-là qui prend notre défense auprès du Père. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Le salaire du péché est la mort. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Mais maintenant, le sang de Jésus, la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. C'est un sang qui plaide miséricorde pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est pourquoi ça se renouvelle chaque matin. Ça se renouvelle chaque matin. Ses compassions chargent le sang de Jésus et présentent au Père chaque matin pour parler pour nous en notre faveur. Amen. Pendant que je suis dans Romains, la résurrection de Jésus est source de justification pour nous. Romains 4, 25. Source de justification. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pourquoi? Pour notre justification. Jésus est ressuscité pourquoi? Pour notre justification. Si Jésus n'est pas ressuscité, on n'est pas justifié. On n'est pas justifié. Parce que ça se situe dans sa fonction d'avocat qu'il exerce auprès du Père. Il justifie, il continue de nous justifier. Donc, si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a aucun moyen pour qu'on soit justifié. Lorsque, l'enfant de Dieu ou le croyant pêche. On a une autre implication. La résurrection de Jésus implique la victoire sur le péché, la mort, le tombeau et le séjour des morts. La résurrection implique la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, la victoire sur le séjour des morts. Et c'est pourquoi je vous ai dit, lorsque Jésus est mort, si ça s'arrêtait à la mort, à la croix, ce n'est pas complet. Parce que entre le temps que Jésus est mort, pendu à la croix, et le temps qu'il est ressuscité, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées. Il est mort à la croix, on a pris son corps, certes déposé dans un tombeau, mais ça ne s'arrêtait pas là. Son travail allait continuer. Il a fallu que Jésus aille dans le séjour des morts pour aller régler d'autres affaires. Donc maintenant, s'il est resté seulement à la croix ou au tombeau, le travail du séjour des morts n'est pas fait. Et ce travail-là doit être fait. Jésus doit aller faire ce travail dans le séjour des morts pour régler le problème de la mort et du séjour des morts. Je ne sais pas si je vais pouvoir prendre les textes là, mais je vais essayer de prendre quelques-uns. Prenons 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20. Je vais essayer d'aborder le point de séjour des morts. 1 Pierre, chapitre 3, qu'est-ce que je dis? 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20. Versets 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il est ressuscité, cette forme de résurrection-là, la résurrection de Jésus a deux dimensions. Une dimension spirituelle, une dimension physique. Parce qu'il a fallu être ressuscité spirituellement, en esprit, le texte vient de le dire, ayant été rendu vivant quant à l'esprit. C'est en esprit qu'il est allé régler le problème dans le séjour des morts. Maintenant, ayant été rendu vivant à l'esprit, il est descendu maintenant dans le séjour des morts pour aller régler le problème. Il a prêché aux esprits en prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez comprendre, mes bien-aimés, de Adam jusqu'à Jésus, il y avait des gens qui croyaient en Dieu, d'accord? Mais qui sont morts. De la même façon, il y en avait qui ne croyaient pas en Dieu, qui sont aussi morts. Maintenant, la Bible va vous parler du séjour des morts. Dans le séjour des morts, dans l'Ancien Testament qu'on appelait Sheol, et dans le Nouveau Testament qui s'appelle Hadès, qui correspond au sein d'Abraham, Luc va l'expliquer dans Luc chapitre 16, le sein d'Abraham en parlant de Lazare et l'homme riche. Là. Alors Lazare, ce n'est pas Lazare de Béthanie, de Marie et Marthe, c'est un autre Lazare. Ce n'est pas le même Lazare. Donc, il va nous présenter le séjour des morts. D'accord? Il va nous présenter le séjour des morts dans Luc chapitre 16. Maintenant, dans le séjour des morts, il y a le sein d'Abraham, il y a aussi le séjour des morts en tant que tel pour ceux qui n'ont pas fait alliance avec Christ. Alors, Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il est descendu là-bas. Il y a quatre choses que Jésus est allé faire. D'abord, il est allé proclamer sa victoire. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est allé prêcher aux esprits. Il est allé prêcher aux esprits. Il est allé proclamer sa victoire. Deux, il est allé libérer des captifs. Si l'on regarde Éphésiens 4, 8, il est dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Donc, il est descendu dans le séjour des morts. Il est monté avec des captifs. Matthieu 27, 52 à 53, et même continuer, va expliquer que lorsque Jésus est ressuscité, il y a des morts qui sortent des tombeaux. sort des tombeaux, marche dans les rues de Jérusalem, retourne à leur famille. Bien entendu, eux autres, ils vont mourir par la suite. Sortis dans les tombeaux. Donc Jésus a emmené des captifs. Il était où? Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Donc, Jésus a proclamé sa victoire, il a libéré des captifs, et une troisième chose que Jésus a fait, c'est qu'il a établi sa domination sur la mort. Il a établi, qu'est-ce que je dis? Sa domination sur la mort. Je prends un texte rapidement. Apocalypse chapitre 1er 18. Apocalypse 1er 18. Apocalypse 1er 18 pour « J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est quand il est descendu dans le séjour des morts, il dit « Les gars, moi là, je viens vous arracher ce que Adam vous a donné. » Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il l'a enlevé parce que la mort avait une emprise sur l'homme. Il a fallu que Jésus aille dans le séjour des morts pour aller prendre les clés de la mort et du séjour des morts pour que cette emprise-là soit totalement enlevée. Et c'est pourquoi lorsque Jésus revient, il a fait la rencontre des disciples dans la chambre haute pendant qu'ils étaient en train de manger. Jésus fait son apparition, paf, il est passé à travers les murs. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Paul écrit pour dire, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il a reçu ce pouvoir, tout genou doit fléchir devant lui. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Sous la terre, c'est dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Toutes les dominations, toutes les autorités fléchissent. Genou devant Jésus-Christ. Mais il a fallu qu'il soit ressuscité. Comment cette personne va savoir que Satan n'a plus d'emprise sur lui, Satan n'a plus d'autorité sur lui, s'il ne reçoit, elle ne reçoit pas le message de la résurrection. Pour dire que Jésus a accompli une œuvre majestueuse qui fait en sorte que la chaîne qui t'a retenu pendant longtemps, eh bien, Jésus l'a brisée par sa résurrection. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un s'est levé. Il est du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est levé, il est ressuscité. Maintenant, il a brisé cette chaîne. Ton job, ta part maintenant, c'est de l'accepter pour que ça devienne une évidence dans ta vie. Pour que ça devienne une évidence. La résurrection de Jésus, c'est le message. La résurrection de Jésus, c'est la bonne nouvelle qu'il faut annoncer. C'est la bonne nouvelle qu'il faut annoncer. La résurrection de Jésus-Christ. Je n'ai pas le temps d'aborder le reste avec vous, mais soyez assurés que je reprendrai un autre message et que je vais intégrer ces éléments afin de pouvoir bonifier davantage ce message. Que le Seigneur nous fasse grâce et nous donne suffisamment de sagesse pour pouvoir le faire. Mais retenez ceci, cinq implications que j'ai mentionnées. La résurrection de Jésus valide que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La résurrection de Jésus rend crédible la parole de Jésus. La résurrection de Jésus nous conduit à la vie éternelle en Christ. La résurrection de Jésus nous donne droit à un avocat qui nous évite la condamnation. La résurrection de Jésus implique la victoire sur le péché, parce que le péché est cloué à la croix. La résurrection de Jésus nous donne la victoire sur le tombeau, parce que Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau de telle sorte que, eh bien, le plan du diable est défait par toutes les fomentations que le diable avait orchestrées au départ. Donc, il nous donne la victoire sur le tombeau. Le tombeau ne peut plus le retenir, de telle sorte que nous, lorsque nous quittons ce corps, nous quitterons ce corps, le tombeau ne pourra pas non plus nous retenir parce que nous allons hériter de corps glorieux à l'image de Jésus-Christ. Donc, si ça n'a pas été possible pour Jésus, il ne serait pas possible non plus pour nous. Mais gloire sera rendue à Dieu. Il est sorti du tombeau. Nous aussi, nous sortirons du tombeau par sa puissance. Amen. Le séjour des morts. Il nous donne la victoire sur la mort. Il nous donne la victoire sur le séjour des morts. Il nous donne la victoire sur le tombeau. Il nous donne la victoire sur le séjour des morts. Pourquoi ? Sur le séjour des morts, il nous donne la victoire. Parce que, vous voyez, lorsque Jésus est ressuscité, il a pris les captifs. Malheureusement, je n'ai pas le temps de lire ce texte. Il a pris les captifs. C'est-à-dire que tous les enfants de Dieu, ou bien les croyants en Dieu, qui étaient... Parce que le séjour des morts, c'est une chambre qui a deux salles d'attente. Voilà, deux salles d'attente. Une salle d'attente, le sein d'Abraham, et l'autre salle d'attente, c'est pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Christ, ou bien qui n'ont pas cru en Christ, voilà, en Dieu. Donc, dans cette salle d'attente, sein d'Abraham, tous ceux qui sont morts en Christ ou qui croyaient en Dieu se trouvaient là-bas. Et l'autre salle d'attente, c'est là où se trouvait, eh bien, l'homme riche et compagnie, etc. Donc, Jésus, en allant dans le séjour des morts, il a pris tous ceux qui se trouvaient dans le sein d'Abraham. Il les a migrés dans le paradis. Parce que le paradis n'est pas sous terre. Le paradis est en haut. De telle sorte que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14 ou 12, il dit que « Je connais un homme qui fut enlevé au paradis. » Si un homme fut enlevé dans le paradis, c'est-à-dire le paradis n'est pas en bas, il est en haut. Donc, quand Jésus, maintenant, est descendu dans le séjour des morts, il est parti avec tout ce beau monde-là et migré vers le paradis. Et c'est pourquoi dans Apocalypse maintenant, donne-moi juste une minute que je trouve ce texte. Apocalypse 20, je crois, 20, verset 12. Je prends seulement une minute, je vous lis ça. J'espère que c'est lui. 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Maintenant, sachant que le séjour des morts avait deux compartiments, si le saint d'Abraham était encore dans le séjour des morts, qu'est-ce qui va arriver? Donc, les croyants en Christ vont être aussi jetés dans l'étang de feu. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand Jésus est descendu en bas, il est monté avec eux autres, il a rendu cette chambre vide, de telle sorte que, quand maintenant Dieu va exercer son jugement, va y avoir que le séjour des morts et la mort qui seront maintenant jetés dans l'étang de feu. Amen. C'est la bonne nouvelle que le Seigneur vous envoie ce matin. La bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité. À la résurrection et dans les jours qui suivent, Jésus a passé 40 jours sur la terre avec les disciples. Acte 1er 11. 40 jours. Et nous sommes dans cette période de 40 jours, là, sachant que si, par exemple, nous célébrons la résurrection de Jésus dimanche dernier, nous sommes dans cette période de 40 jours là. Nous sommes dans cette période de 40 jours-là. Il est en train de se montrer aux disciples pendant ces 40 jours. Et la Bible dit, vous savez que Jésus, je termine, vous savez que Jésus, quand Jésus est monté au ciel, hein, il est monté au ciel dans acte 1er, 2, dans acte 2, lorsqu'il a dit, homme galiléen, ce Jésus que vous voyez monter au ciel vient de la même façon que vous le voyez monter. Ah, Jésus était déjà monté. Hein? Il était déjà monté. Pourquoi? Parce que quand Marie, les deux Maries là, ont fait la rencontre de Jésus devant le tombeau ou bien dans le coin là, ils s'apprêtaient à toucher Jésus. Jésus dit, non, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Maintenant, dans Jean chapitre 20 ou 21, je ne m'en souviens pas, Jésus est apparu maintenant au milieu des disciples, pendant qu'ils étaient ensemble. Et maintenant, Jésus dit, touche-moi. Donc, entre le temps qu'il a dit à Marie de ne pas le toucher, et par la suite, dans la même foulée, il vient auprès des disciples, il dit, maintenant, touche-moi. C'est-à-dire qu'il est déjà monté, que la Bible n'a pas rapporté. Mais cependant, en lisant entre les lignes, on est capable de voir que Jésus est monté. Parce que s'il n'est pas monté, parce que c'est lorsqu'il est monté, il y a un service d'ordination qui est fait en haut là-bas auprès du Père. Où est-ce que le Père a validé son sang? Maintenant que son sang a validé, il est permis maintenant de retourner maintenant sur la terre pour venir confirmer toute chose. Au point, il dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est là-bas, lors du service d'ordination, que le Père lui a dit, eh bien, regardez ce que Paul a écrit dans Philippiens chapitre 2, eh bien, tout genou, alors je remis toutes les choses sous tes pieds, tout genou fléchisse devant toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est votre partage ce matin, c'est mon partage ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et que la puissance de la résurrection repose sur vous. Amen, amen, amen.